Chapitre 61. Nous savons que tu serais avec nous aujourd'hui si le ciel n'était pas si loin. Quand nous avons emménagé au cimetière en août 1997, Sacha avait déjà quitté la maison. Comme d'habitude, la porte était ouverte. Il nous avait laissé un mot et les clés sur la table. Il nous souhaitait la bienvenue, nous expliquait où se trouvait le ballon d'eau chaude, le compteur électrique, les arrivées d'eau, les ampoules et les fusibles de rechange. Les boîtes de thé avaient disparu. La maison était propre. Sans lui, elle était triste. Elle avait perdu son âme, comme une fille abandonnée par son amour de jeunesse. J'ai découvert le premier étage, la chambre vide. Le potager avait été arrosé la veille. Le chef des services techniques de la ville nous a retrouvés dans la soirée pour vérifier que nous étions bien installés. Au début, des gens venaient chez nous pour faire soigner leur tendinite et leur douleur chronique. Ils ignoraient que Sacha était parti. Ils n'avaient dit au revoir à personne. Les cloches de l'église sonnent. Jamais d'enterrement le dimanche, juste la messe pour rappeler les vivants à l'ordre. En général, le dimanche midi, c'est Elvis qui vient déjeuner avec moi. Il m'apporte des religieuses à la vanille, et moi, je lui fais des penées aux champignons. J'ajoute un peu de persil frais dessus. Un délice. Selon la saison, je cueille ce qu'il y a au potager et nous mangeons des tomates, des radis ou une salade de haricots verts. Elvis parle très peu. Ça ne me dérange pas. Avec lui, pas la peine de faire la conversation. Elvis est comme moi, il n'a pas de parents. Il est resté dans un foyer mâconnais jusqu'à ses 12 ans. Ensuite, il a été placé comme garçon de ferme à Brancion-en-Chalon. La ferme se situe à l'entrée du village. C'est une ruine à présent. Tous les membres de cette famille sont morts et enterrés dans mon cimetière depuis longtemps. Elvis ne passe jamais près de leur caveau. Il a peur du père, Émilien Fourier, 1909-1983, une brute qui frappait tout ce qui bougeait. Autour de leur caveau, les allées ne sont pas ratissées. Il m'a toujours dit qu'il ne voulait pas être enterré avec eux. Il m'a fait promettre d'y veiller. Il faudrait pour cela que je meure après lui. Alors je lui ai fait prendre un contrat obsèque chez les frères Luccini, pour qu'il ait sa concession à lui, rien qu'à lui, avec la photo d'Elvis Presley scellée dessus et les mots « Always in my mind » en lettres d'or. Bien qu'Elvis ait l'air d'un enfant, comme souvent les garçons qui n'ont pas connu les caresses d'une mère, il sera bientôt à la retraite. C'est Nono et moi qui lui faisons ses comptes et remplissons ses papiers administratifs. Son vrai nom, c'est Éric Delpierre, mais je n'ai jamais entendu personne l'appeler ainsi. Je pense que tous les habitants de Brancion ignorent sa véritable identité. Il vit avec son nom de scène depuis toujours. Il est tombé amoureux d'Elvis Presley quand il avait 8 ans. Il y en a qui entrent en religion, lui, il est entré en Elvis, ou bien il a laissé Elvis entrer en lui. Ses chansons l'ont traversé et sont restées comme des prières. Le père Cédric récite le Notre Père et Elvis, Love Me Tender. Je ne lui ai jamais connu d'amoureuse. Nono non plus. En cherchant des feuilles de laurier séchées dans mon placard à condiments, je tombe sur une lettre de Sacha glissée entre l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. Je sème les lettres de Sacha un peu partout dans la maison pour les oublier et finir par tomber dessus par hasard. Celle-ci date de mars 1997. Chère Violette, mon jardin est devenu plus triste que mon cimetière. Les jours se suivent et ressemblent à de petits enterrements. Comment faire pour te revoir? Est-ce que tu veux que j'organise ton enlèvement, là-bas, du côté des trains? 2 dimanches par mois, ce n'était pourtant pas bien lourd, pas la mer à boire. Mais pourquoi donc lui obéis-tu? Sais-tu que, parfois, il faut être insoumis? Et puis, qui va s'occuper de mes nouveaux plants de tomates? Hier, Madame Gordon est venue pour que je lui soigne son zona. Elle est repartie avec le sourire. Quand elle m'a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ?» j'ai failli lui répondre « Allez me chercher Violette. Je suis en train de faire mes semis de carottes. J'ai mis les graines dans des tasses en terre. J'ai étalé mes semis dans mon salon, à côté des boîtes à thé, juste derrière les vitres. Comme ça, quand le soleil tape, c'est directement dessus. Quand c'est chaud, ça pousse bien. Rien ne vaut la chaleur. L'idéal serait de les mettre devant une cheminée, mais ma petite maison n'en possède pas. C'est pour ça que le Père Noël ne passe jamais chez moi. Ensuite, quand ils auront bien poussé, je les mettrai sous la verrière. Les oignons, les échalotes et les haricots, tu peux les mettre directement en terre, mais pas les carottes. N'oublie jamais les saints de glace, les 11, 12 et 13 mai de chaque année. C'est là que tout se décide. C'est là qu'il faut repiquer, en théorie. Si tu veux protéger tes jeunes pousses, tu poses des pots dessus durant la nuit ou un film léger. Reviens vite. Ne fais pas comme le Père Noël. Avec toute mon amitié. Sacha. Elvis frappe à la porte et entre avec ses religieuses à la vanille emballées dans du papier blanc. Je replie la lettre de Sacha et la remets à sa place pour l'oublier et tomber dessus une autre fois, par hasard. Tout va bien, Elvis? Violette, il y a quelqu'un qui te cherche. Elle a dit, je cherche la femme de Philippe Toussaint. Mon sang se glace. Une ombre suit Elvis, elle entre. Elle me fixe sans dire un mot. Ensuite, elle balaye l'intérieur de la maison du regard, puis revient à moi. Je vois qu'elle a beaucoup pleuré. J'ai l'habitude de voir des gens qui ont beaucoup pleuré, même si ça remonte à plusieurs jours. Elvis appelle Eliane en claquant ses deux cuisses et l'amène avec lui à l'extérieur, comme s'il voulait la protéger. La chienne le suit joyeusement. Elle a l'habitude de partir en balade avec lui. Il n'y a plus qu'elle et moi dans la maison. Vous savez qui je suis?
Oui.
Françoise Pelletier. Vous savez pourquoi je suis là? Non. Elle prend une grande inspiration pour retenir ses larmes. Vous avez vu Philippe ce jour-là?
Oui.
Elle encaisse le coup. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici?
Me rendre une lettre.
Elle ne se sent pas bien, elle change de couleur. Des gouttes de sueur perlent à son front. Elle ne bouge pas d'un pouce. Pourtant, je vois passer des cyclones dans son regard bleu nuit. Ses mains sont crispées, ses ongles enfoncés dans la peau. Asseyez-vous. Elle acquiesce un sourire de remerciement et tire une chaise à elle. Je lui sers un grand verre d'eau. Quelle lettre! Je lui avais fait envoyer une demande de divorce chez vous, à Bron. Ma réponse semble la soulager. Il ne voulait plus entendre parler de vous.
Moi non plus.
Il disait qu'il était devenu cinglé à cause de vous. Il détestait cet endroit, ce cimetière. Pourquoi vous êtes resté ici quand il est parti? Pourquoi ne pas avoir déménagé, refait votre vie? Vous êtes une jolie femme. Françoise Pelletier boit son verre d'eau d'un trait. Elle tremble beaucoup. La mort de l'autre ralentit les gestes de celui ou celle qui reste. Chacun de ces gestes semble être retenu par la lenteur. Je la resserre. Elle me sourit péniblement. La première fois que j'ai vu Philippe, c'était à Charleville-Mézières en 1970, le jour de sa communion solennelle. Il avait 12 ans et moi 19. Il portait une aube et une croix de bois autour du cou. Je n'ai jamais vu quelqu'un si mal porter un vêtement. Je me souviens m'être dit, on n'y croit pas à ce môme habillé en enfant de cœur. Du genre à boire le vin de messe et fumer des clopes en douce. Je venais de me fiancer à Luc Pelletier, le frère de Chantal Toussaint, la mère de Philippe. Luc avait insisté pour qu'on aille à la messe le matin et qu'on déjeune avec eux. Il ne s'entendait pas du tout avec sa sœur et son beau-frère. Il les appelait les balais dans le cul. Mais il adorait son neveu. On a passé une journée assez ennuyeuse. On a attendu que Philippe déballe ses cadeaux et à 15h, on était déjà reparti. La mère de Philippe m'a regardée de travers toute la journée. On a senti que ça l'exaspérait que son frère s'envoie une jeunesse. J'avais 30 ans de moins que Luc. La même année, nous nous sommes mariés à Lyon, Luc et moi. Philippe et ses parents sont venus à notre mariage, engoncés de ressentiment. Philippe s'est saoulé en buvant tous les fonds de verre des adultes. Il était tellement bourré qu'à l'ouverture du bal, il m'a embrassé sur la bouche en beuglant « Je t'aime, tata !» Il a fait rire tous les invités. Il a passé le reste de la soirée à vomir dans les toilettes pendant que sa mère gardait la porte en disant « Le pauvre petit, ça fait une semaine qu'il traîne une indigestion. » Elle le défendait tout le temps, coûte que coûte. Philippe m'amusait beaucoup. J'adorais sa belle frimousse. Après notre mariage, Luc et moi avons ouvert un garage à Bron. D'abord, on a fait les réparations de base, les vidanges, l'entretien, la peinture. Ensuite, nous sommes devenus concessionnaires. Les affaires ont toujours été fructueuses. On travaillait dur, mais on n'a jamais galéré. Jamais. Deux années ont passé et Luc a invité le petit Philippe, comme il l'appelait, à venir chez nous pendant les vacances d'été. Nous habitions une maison de campagne située à 20 minutes de notre garage. Philippe a fêté ses 14 ans avec nous et, comme cadeau, Luc lui a offert une moto, une 50 cm cube. Philippe en a pleuré de joie. À ce moment-là, Luc et sa sœur se sont brouillés. Chantal a insulté son frère au téléphone, le traitant de tous les noms d'oiseaux. De quel droit se permettait-il d'offrir une moto à son fils? C'était trop dangereux. Il voulait que Philippe se tue, lui, le bon à rien, qui n'a jamais pu avoir d'enfant. Ce qui était vrai. Il n'en a jamais eu. Ni avec sa première femme, ni avec moi. Ce jour-là, Chantal a touché le point sensible. Luc n'a plus jamais reparlé à sa sœur. Mais malgré la désapprobation de ses parents, Philippe est revenu à la maison chaque été. Et il ne voulait jamais repartir. Il disait qu'il voulait vivre avec nous toute l'année. Il nous suppliait de le garder. Mais Luc lui expliquait que ce n'était pas possible, que s'il faisait ça, ce serait son arrêt de mort. Sa sœur le tuerait. C'était un gamin gentil, bordélique, mais gentil. Ça faisait plaisir à Luc de le voir. Il avait reporté son affection sur son neveu. Philippe a longtemps été son fils de substitution. Je m'entendais bien avec lui. Je lui parlais comme à un enfant. Il me le reprochait souvent. Il me disait « Je suis pas un gosse ». L'été de ses 17 ans, il est parti en vacances avec nous à Biote, près de Cannes. On avait loué une villa avec vue sur la mer. À la mer, on y allait chaque jour. On partait le matin, on déjeunait dans une paillote et on rentrait le soir. Philippe sortait avec des filles, une différente chaque jour. Parfois, l'une d'entre elles nous rejoignait sur la plage dans la journée. Il les embrassait sur sa serviette. Je le trouvais d'une maturité déconcertante et d'une nonchalance déroutante. Il avait toujours l'air de se foutre de tout. Il allait danser chaque soir. Il rentrait dans la nuit. Avant de partir, il monopolisait la salle de bain et laissait traîner ses bouchons de parfum. Il piquait les rasoirs de son oncle, laissait toujours de la mousse à raser sur le rebord du lavabo et ne refermait jamais le tube de dentifrice, abandonnait les serviettes de bain par terre. Tout cela avait le don d'agacer Luc. Ça l'agaçait, mais ça l'amusait aussi. Et moi, je ramassais et nettoyais le linge du gosse que nous n'aurions jamais ensemble avec Luc. On aimait recevoir Philippe. Il nous apportait de la jeunesse, de l'insouciance. Philippe et moi n'avions que 7 ans d'écart. Ça compte les 20 premières années, on vit sur 2 planètes différentes, mais avec le temps, cette différence s'estompe. Les planètes se rapprochent. Goût pour les mêmes films, les mêmes séries, la même musique. On finit par rire des mêmes choses. Pendant ce séjour à Biote, j'ai eu une liaison avec un barman. Rien d'original ni de très dangereux. Luc et moi, nous nous aimions. Nous nous sommes toujours aimés à la folie. Luc me disait souvent « Je suis un vieux con. Si tu veux t'amuser avec des hommes plus jeunes, vas-y, du moment que je ne le sais pas. Et surtout, que tu ne tombes pas amoureuse. Ça, je ne le supporterai pas. » Avec le recul, je suis sûre et certaine qu'en me poussant un peu dans les bras d'autres hommes, il espérait que je me retrouverais enceinte. C'était inconscient, bien sûr, mais je crois qu'il a longtemps espéré que je rentrerais un jour avec un polichinelle dans le tiroir. Un petit qu'il aurait estampillé de son nom. Bref, pendant ces vacances d'été, on faisait une fête à la villa, une vingtaine de personnes étaient là. On avait tous pas mal picolé, et Philippe m'a surprise avec mon bel amant dans la piscine. Je n'oublierai jamais le regard qu'il a posé sur moi. Dans ses yeux, j'ai vu un mélange de stupeur et de jouissance, une sorte de contentement. Je pense que cette nuit-là, il m'a vue comme une femme pour la première fois. Une femme, donc une proie. Philippe était un redoutable prédateur, d'une beauté à damner un saint. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Bien sûr, il n'a rien dit à Luc, ne m'a pas balancé, mais quand je le croisais dans la villa, il me souriait d'un sourire entendu, un sourire qui signifiait « Nous sommes complices ». Et je détestais ça. Je lui aurais mis des gifles à longueur de journée. Il est devenu d'une suffisance insupportable. Nous qui rions ensemble, nous avons cessé de rire du jour au lendemain. Je me suis mise à ne plus supporter sa présence, l'odeur de son parfum, le bordel qu'il laissait partout, le bruit qu'il faisait en rentrant à 5 heures du matin. Quand je l'envoyais promener, Luc me disait « Parle gentiment au petit, il a assez de sa mère pour lui prendre la tête ». À table, dès que Luc avait le dos tourné, Philippe me fixait en souriant légèrement. Je baissais les yeux, mais je sentais son regard brûlant d'arrogance sur moi. Le dernier soir, il est rentré plus tôt que d'habitude, et sans fille. J'étais sur la terrasse, seule, allongée sur un transat. Je m'étais assoupie. Il a posé ses lèvres sur les miennes. Je me suis réveillée et je l'ai giflé. Je lui ai dit « Écoute-moi bien, morveux. Tu refais ça, tu ne remets plus jamais les pieds chez nous. » Il est parti se coucher sans moufter. Le lendemain, nous quittions la villa. Nous l'avons accompagné jusqu'à la gare. Il a pris un train pour Charleville-Mézières. Sur le quai, il nous a embrassés en nous serrant, Luc et moi, chacun dans un bras. Je n'avais pas envie de ces effusions, mais pas le choix. Luc ne supportait pas que je ne puisse plus souffrir son neveu. Ça le rendait très malheureux. J'étais coincée. Philippe nous a remerciés 100 fois. Pendant qu'il nous enlaçait, il a glissé une main le long de mon dos et m'a mis une main aux fesses en me tenant fermement contre sa cuisse. Je n'ai pas pu réagir, Luc était contre nous. Le geste de Philippe m'a glacée. Je me suis dit qu'il avait un toupet monstrueux et les gestes d'un homme tellement sûr de lui. Il a fini par nous lâcher. Au revoir, tata, au revoir, tonton. Il est monté dans le train en jetant son sac par-dessus son épaule, nous a fait un signe de la main avec son sourire d'ange. Et tandis que mes yeux le mitraillaient, lui, il souriait, d'un air de dire « Je t'ai eu ». Nous sommes rentrés à Bron et nous avons repris le travail. Au printemps suivant, Philippe nous a téléphoné pour nous dire qu'il ne viendrait pas chez nous l'été suivant. Il partait fêter ses 18 ans en Espagne avec des copains. J'avoue que ça m'a soulagée. Je n'aurais pas à le croiser ni à éviter ses regards et gestes déplacés. Luc a été très déçu, mais en raccrochant, il a dit « C'est normal, c'est de son âge ». Nous sommes repartis à Biot, nous avons passé un mois avec des amis retrouvés là-bas, mais la présence de Philippe manquait à Luc. Souvent, il me disait « La maison est trop bien rangée, il n'y a pas assez de bruit ici ». Ce n'est pas Philippe, à proprement parler, qui lui manquait, même si Luc lui était très attaché, mais un enfant à nous. Je me souviens qu'en rentrant de ses vacances, sur le chemin du retour, je lui ai proposé d'adopter un enfant. Il a répondu non, sans doute parce qu'il y avait longuement réfléchi. Il m'a juste dit qu'on était bien tous les deux, tellement bien. Au mois de janvier suivant, la mère de Luc et Chantal est décédée. Nous sommes allés à l'enterrement et malgré les circonstances, Luc et sa sœur ne se sont pas adressés la parole. Philippe était là. Nous ne l'avions pas vu depuis 1 an et demi. Il avait beaucoup changé. Luc l'a serré longtemps dans ses bras en lui disant qu'à présent, Philippe le dépassait d'une tête. Philippe a fait semblant de ne pas me voir durant toute la cérémonie. Juste avant de remonter dans la voiture, tandis que Luc était parti saluer de la famille, Il m'a coincé contre la portière du haut de son 1m88 en me disant « Tiens, tata, t'étais là, je t'avais pas vu. » Et il m'a embrassé sur la bouche sans que j'aie le temps de réagir. Puis il m'a soufflé « À l'été prochain. » Et l'été prochain est arrivé, l'été de ses 20 ans. Avant même qu'il ne mette un pied dans sa chambre à la villa, je l'ai chopé par le callback. Il a écarquillé les yeux, amusé. Je pense que c'était drôle à voir. Moi qui mesure 1m60 sur la pointe des pieds, et lui immense, collé contre un mur du couloir, mes petites mains tremblantes le serrant de toute leur force. « Je te préviens, » je lui ai dit, « si tu veux passer de bonnes vacances, t'arrêtes ton cinéma. Tu ne m'approches pas, tu ne me regardes pas, tu ne fais aucune allusion et tout se passera bien. » Il m'a répondu ironique, « D'accord, tata, promis, je me tiendrai à carreau. » À partir de cet instant, il a fait comme si je n'existais pas. Il restait poli. « Bonjour, bonne nuit, merci, à tout à l'heure. » Mais nos échanges étaient restreints à ces 4 formules de politesse. Nous partions ensemble à la plage le matin, lui sur le siège arrière, nous deux à l'avant. Il sortait toujours tard, semait ses affaires un peu partout dans la maison. Des filles le retrouvaient dans la nuit ou sur sa serviette de plage dans l'après-midi. Il partait parfois en sauter une derrière un rocher. C'était un va-et-vient de nichons permanent. Et ça gloussait partout où on mettait les pieds. Ça rendait Luc hilar. Philippe était si beau avec sa gueule d'ange, ses boucles blondes et son teint hâlé. Il avait un corps d'homme fin et musclé. Sur la plage, toutes les filles louchaient sur lui, les femmes aussi. Même les autres hommes l'enviaient. Ça lui donnait tellement d'assurance, tous ces regards tournés vers lui. Parfois, Luc me soufflait à l'oreille. « Ma sœur a dû tromper le père Toussaint, c'est pas possible que ces deux affreux aient fait un gosse aussi beau. » Ça me faisait tellement rire. Luc me faisait toujours rire. J'avais vraiment une belle vie avec lui. J'étais gâtée d'amour. Nous étions les meilleurs amis du monde. Je n'aurais pas survécu à une séparation. Il était un ami, un père, un frère. Il ne se passait plus grand-chose dans notre lit, mais je me rattrapais ailleurs, de temps en temps. Je sais ce que vous pensez. Quand est-ce que Philippe a fini par l'avoir? S'ensuit un très long silence avant que Françoise ne reprenne son monologue. Elle ôte une tache imaginaire sur son jean du revers de la main. Le temps s'est arrêté. Nous sommes seuls, face à face. C'est comme si Philippe avait changé de parfum, comme si Françoise faisait entrer un étranger dans ma cuisine. Le soir de ses 20 ans, Luc et moi avons organisé une fête pour Philippe à la villa. Ses jeunes amis sont venus. Il y avait de la musique, de l'alcool et un buffet dressé au bord de la petite piscine. Il faisait bon, on dansait tous ensemble. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à draguer un ami de Philippe, un dénommé Roland, un jeune crétin avec qui Philippe passait ses journées. Nous nous sommes un peu isolés pour nous bécoter. Nous avons fini par rejoindre les autres au moment du gâteau d'anniversaire et des cadeaux. Quand nous sommes réapparus, Philippe m'a fusillé du regard. J'ai cru qu'il allait m'en mettre une. Il a soufflé ses 20 bougies, les yeux pleins de rage. Au même moment, Luc a fait rouler le cadeau qu'il avait fait entourer d'un ruban rouge vers son neveu, une Honda CB100 grise, avec un chèque de 1 000 francs dans une enveloppe accrochée au casque intégral. Il y a eu des embrassades, des coupes de champagne levées au ciel, des cris de joie et de stupeur. J'ai vu que Philippe faisait semblant de se détendre, de sourire à tout le monde, de frimer comme à son habitude, mais ses mâchoires ne se desserraient pas. Il était terriblement contrarié. Quand la musique a repris, qu'on s'est tous mis à danser, Roland est revenu se coller à moi, alors Philippe l'a attrapé par l'épaule, lui a glissé quelque chose à l'oreille. Roland lui a répondu « T'es sérieux, mec ?» Et les coups sont partis. Luc, qui s'était couché, s'est relevé en entendant le raffut. Il a fichu Roland à la porte, à grands coups de pompe dans le cul. Quand il s'agissait de son neveu, Luc réagissait comme sa sœur. Rien n'était de sa faute. Luc a demandé à Philippe ce qu'il s'était passé. Philippe a répondu, déjà pas mal éméché. Roland chasse sur mes terres. Mes terres, c'est mes terres. La fête a repris son cours comme si de rien n'était. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Philippe a déshabillé et collé une de ses copines sur le rebord de la fenêtre de notre chambre. Je devinais leur silhouette s'agiter dans tous les sens. J'entendais la fille gémir et Philippe lui dire tout un tas de saloperies salaces qui m'étaient bien évidemment destinées. Il parlait fort pour que je l'entende, mais pas suffisamment pour réveiller Luc. Il savait que son oncle prenait des somnifères pour dormir. Il savait aussi que j'étais là, proche d'eux, les yeux grands ouverts, la tête posée sur mon oreiller, et que j'entendais tout. Il se vengeait. Les jours suivants, on l'a entreaperçu. Il partait faire de la moto du matin jusqu'au soir. Même la journée, il ne nous rejoignait plus à la plage. Sa serviette restait sèche et vide. Parfois, je m'assoupissais et je rêvais qu'il se tenait debout près de moi et qu'il s'allongeait de tout son long sur mon dos. Je me réveillais en suffoquant. Une dizaine de jours après son anniversaire, il a refait une apparition à la plage. J'étais partie nager loin du bord. Je l'ai vu s'approcher de Luc, juste un point, sa blondeur et son allure. Il l'a embrassé chaleureusement et s'est assis près de lui. Luc a fini par me montrer du doigt. Philippe m'a repéré et s'est déshabillé. Il est entré dans l'eau pour me rejoindre. Il est venu me retrouver en nageant le crawl. Je ne pouvais pas fuir. J'étais coincée, faite comme un rat. Tandis qu'il s'approchait de moi, j'ai commencé à paniquer. Je ne pouvais plus nager, je faisais du surplace. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'il s'approchait de moi pour me noyer, pour me faire du mal. J'ai tellement paniqué que je me suis mise à sangloter, j'ai commencé à crier. Mais de là où j'étais, personne ne m'entendait. J'avais dépassé les bouées de navigation depuis un moment. En quelques minutes, il est arrivé à ma hauteur. Il a tout de suite vu que je ne me sentais pas bien. Je continuais à appeler au secours, mais sans le regarder. Il a voulu m'aider, mais je l'ai frappé en hurlant « Ne me touche pas !» Et j'ai bu une tasse. Il m'a hissé de force sur son dos et m'a ramené tant bien que mal jusqu'à une bouée flottante. Pendant qu'il nageait, je lui donnais des coups et il me les rendait pour que je me calme. On a fini par y arriver. Je me suis agrippée à la bouée. Lui aussi était épuisé. Nous avons repris notre souffle. Il a dit « Maintenant tu te calmes, tu respires et on retourne vers la plage. » J'ai hurlé « Tu ne me touches pas !»« Je ne te touche pas, mais tous mes potes peuvent te sauter, c'est ça ?»« Toi, tu es mon neveu. Non, je suis le neveu de Luc. Tu n'es qu'un enfant gâté, je t'aime. Arrête ça tout de suite. Non, j'arrêterai jamais. » J'ai commencé à avoir froid, à grelotter. J'ai regardé la plage, elle m'a semblé très loin. J'ai vu Luc. J'ai eu envie de ses bras lourds, protecteurs, rassurants. J'ai demandé à Philippe de me ramener au bord. Il m'a de nouveau hissé sur son dos. J'ai mis mes mains autour de son cou. Il s'est mis à nager la brasse et je me suis laissée porter. Je sentais ses muscles sous mon corps, mais je n'éprouvais rien d'autre que de la peur et de l'aversion. Je n'ai pas revu Philippe les deux étés suivants. Luc et moi sommes partis au Maroc. Il nous téléphonait de temps en temps pour nous donner des nouvelles. Il est venu nous voir en mai, presque 3 ans après l'épisode de la plage. L'année de ses 23 ans. Il est venu avec la Honda que Luc lui avait offerte et une petite amie à l'arrière. Quand il a enlevé son casque, que j'ai vu son visage, son sourire, son regard, je me souviendrai jusqu'à ma mort m'être dit « Je l'aime ». Il faisait bon ce jour-là. Nous avons dîné tous les quatre dans le jardin. Nous sommes restés longtemps à parler de tout et de rien. La petite amie, dont j'ai oublié le prénom, était très jeune. Elle était très intimidée. Luc était enchanté de retrouver son neveu. Philippe avait quitté l'école depuis longtemps et il passait de petit boulot en petit boulot. Mon sang n'a fait qu'un tour quand Luc lui a proposé de l'embaucher au garage. Il lui a dit qu'il le formerait et que si ça se passait bien, il l'embaucherait. Je n'ai jamais cru en Dieu. Je n'ai pas fait de catéchisme et j'ai rarement mis les pieds dans une église, mais ce soir-là, j'ai prié « Mon Dieu, faites que Philippe ne travaille jamais avec nous. J'ai aussitôt senti le regard de Philippe sur moi. Il a répondu à son oncle « Laisse-moi voir avec mon père. Faudrait pas qu'il en fasse toute une histoire. » Nous sommes partis nous coucher. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, c'était un jour férié. Philippe et sa petite amie se sont levés tard. On a traîné jusqu'à l'heure du déjeuner. L'après-midi, Luc a fait une sieste et je suis restée devant la télévision avec l'ami de Philippe pendant qu'il était parti faire un tour de moto. Depuis qu'ils étaient arrivés, j'avais tout fait pour ne pas me retrouver seule à seule avec lui. Et puis, c'est arrivé à l'heure de l'apéritif. Je suis descendue à la cave pour sortir une bouteille de champagne. J'ai senti son parfum dans mon dos. Il n'a pas perdu de temps. Il m'a dit « Je ne vais pas venir travailler dans votre garage, mais ce soir, à minuit, tu sors dans le jardin, tu t'assieds sur le muret et tu attends. » Avant même que j'ouvre la bouche, il m'a coupé « Je ne te toucherai pas. » Il est remonté aussitôt. J'ai pris la bouteille et j'ai retrouvé Luc et la jeune fille qui m'attendaient à table. Philippe est arrivé 5 minutes après, comme s'il revenait de l'extérieur. Je me suis demandé ce qu'il attendait de moi. Au fond du jardin, il y avait une baraque à bois et derrière, un vieux muret. Un vieux muret sur lequel Philippe s'amusait avec une planche à roulettes quand il était adolescent. D'ailleurs, Luc l'appelait « le mur de Philippe ». On devrait mettre des jardinières sur le mur de Philippe. Faudrait donner un coup de pinceau sur le mur de Philippe. J'ai vu un beau chat angora l'autre jour sur le mur de Philippe. La soirée a passé comme dans du brouillard. J'ai bu comme un trou. À 23h, tout le monde s'est levé pour aller se coucher. Philippe m'a regardé, puis il s'est adressé à Luc. « Tonton, je crois pas que je vais pouvoir venir travailler chez toi. J'ai parlé aux parents aujourd'hui et ils en ont fait tout un drame. » Luc a rétorqué « C'est pas grave, mon garçon. » J'ai ouvert un livre dans mon lit. Luc s'est endormi contre moi. Plus l'heure avançait, plus mon cœur s'affolait. Il n'y avait aucun bruit dans la maison. À 23h55, j'ai enfilé un manteau et je suis allée m'asseoir sur le muret. J'étais dans le noir complet. Le jardin donnait sur l'arrière de la maison, aucun réverbère ne l'éclairait. Je me souviens avoir sursauté au moindre bruit. Et puis, j'avais peur que Luc se réveille, qu'il me cherche partout. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise comme ça, sans bouger. J'étais paralysée par la trouille. Il ne se passait rien. Que du silence autour de moi. Mais je n'osais pas bouger, je pensais « Si je bouge, Philippe changera d'avis, il viendra travailler chez nous. » Si ça avait été le cas, je serais partie. J'aurais divorcé sans rien dire à Luc. Ça l'aurait tué de savoir que son neveu adoré me voulait. Ça l'aurait tué de savoir que je l'aimais. Philippe et sa petite amie ont fini par arriver. Il lui a dit « Ne dis rien, laisse-toi faire. » Philippe la tenait par la main. Elle marchait à l'aveugle. Elle avait les yeux bandés. Dans l'autre main, il avait une lampe torche qu'il a dirigée dans ma direction. Il m'a éclairée, j'ai eu mal aux yeux. Deux, je ne distinguais que les silhouettes. Il a mis la fille dos à un arbre. Lui me faisait face. Il a posé la lampe à ses pieds, toujours tournée dans ma direction. J'étais comme prise au piège dans les phares d'une voiture. Il a dit « Je veux voir ton visage ». La fille a pensé que c'est à elle qu'il s'adressait. Il lui a donné tout un tas de directives et elle s'est exécutée sous mes yeux, sans savoir que j'étais là, tout près. Comme c'est interdit, je veux au moins baiser ton visage. Il a fait l'amour à la fille. Je ne le voyais pas, j'étais aveuglée, mais je le sentais me fixer. À un moment, il a dit « Viens, viens, viens !» jusqu'à ce que je me lève et m'approche d'eux. Elle était toujours de dos. Philippe était contre elle, face à moi. J'étais si près d'eux que je sentais l'odeur de leur corps. Oui, c'est ça. Regarde comme je t'aime. Ses yeux dans les miens, jamais je n'oublierai. Son sourire malheureux non plus. Comment il la tenait, ses va-et-vient, ses yeux dans les miens, sa jouissance, sa victoire sur moi. Je suis retournée dans ma chambre, tremblante. Je me suis endormie contre Luc. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Philippe. et les nuits d'après aussi. Le lendemain, Philippe et la fille sont rentrés chez eux. Je ne les ai pas vus partir. J'ai prétexté des maux de tête pour rester au lit. Quand j'ai entendu sa moto démarrer et le bruit du moteur disparaître, je me suis levée en me promettant de ne plus jamais le voir. Mais je pensais à lui, souvent. L'été suivant, je me suis arrangée pour partir aux Seychelles avec Luc, en amoureux, en lui disant que j'avais envie de revivre une lune de miel avec lui. J'ai revu Philippe l'été de ses 25 ans. Il a débarqué à la villa sans prévenir. Luc était au courant, il voulait me faire une surprise. J'ai fait semblant d'être heureuse, j'ai eu envie de vomir. Trop d'émotions, aversion, attirance. Le soir même, il faisait l'amour à une fille sous mes fenêtres en murmurant « Viens, 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 regarde comme je t'aime. » Ça a duré un mois. Je tentais de l'éviter toute la journée. Quand je le croisais au petit déjeuner, il me disait faussement léger « Bonjour tata, bien dormi ?» Mais il ne souriait plus. Il avait l'air malheureux. Quelque chose avait changé. Pourtant, chaque nuit, il recommençait avec une fille différente. Moi non plus, je ne souriais plus. Moi aussi, j'étais malheureuse. Il avait réussi à me contaminer d'un amour malsain. J'étais plus malade de lui qu'amoureuse. Le dernier jour des vacances, c'est moi qui l'ai accompagné à la gare. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais le voir. Il m'a répondu « Viens, on part ensemble. Je sens qu'avec toi, tout est possible. Avec toi, j'ai tous les courages. Si tu refuses, je vais devenir un pauvre type, un bon à rien. » Il m'a déchiré le cœur. Je lui ai fait comprendre en douceur que jamais je ne quitterai Luc. Jamais. Il m'a demandé s'il pouvait m'embrasser une dernière fois. J'ai répondu non. Si je l'avais laissé m'embrasser, je serais partie avec lui. Le 30 août 1983, quand son train a disparu, j'ai su que je ne le reverrai pas. Je l'ai senti. En tout cas, pas dans cette vie-là. Vous savez, il y a plusieurs vies dans une vie. On a perdu Philippe de vue. Au début, il a continué à nous téléphoner, et puis, peu à peu, avec les années, plus rien. Luc a pensé qu'il avait fini par obéir à ses parents, qu'il avait pris leur parti. Nous avons repris nos habitudes, notre vie. Une vie paisible et sereine. Un an après, nous avons su que Philippe avait rencontré quelqu'un, vous, qu'il avait eu un enfant, qu'il s'était marié, qu'il avait déménagé. Mais jamais il ne nous a appelés pour nous le dire. Moi, je savais que c'était à cause de moi. Mais Luc a beaucoup souffert de ne plus avoir de ses nouvelles. Je pense qu'il aurait aimé vous rencontrer, rencontrer votre... Peut-être que les choses auraient été différentes, plus faciles. Et puis, il y a eu ce drame. Nous l'avons presque appris par hasard. La colonie de vacances. Épouvantable. Luc a voulu joindre Philippe. Il a téléphoné à sa sœur pour avoir vos coordonnées. Elle lui a raccroché au nez. Il n'a pas insisté. Il a mis ça sur le compte du chagrin. Luc m'a dit « Et puis qu'est-ce qu'on leur dirait ?» Pauvre Philippe. En octobre 1996, Luc est mort dans mes bras, crise cardiaque. Il faisait pourtant beau ce jour-là. On avait ri ensemble au petit déjeuner. En fin de matinée, il a cessé de respirer. J'ai hurlé pour qu'il ouvre les yeux. J'ai hurlé pour que son cœur reparte. Mais ça n'a servi à rien. Luc ne m'entendait plus. J'ai culpabilisé. Je me suis longtemps dit que c'était à cause de Philippe, de ce drôle d'amour caché. Pas drôle du tout. Je l'ai fait enterrer dans la plus stricte intimité. Je n'ai pas prévenu les parents de Philippe. Pourquoi faire? Luc n'aurait pas supporté de les voir à son enterrement. Il aurait été capable de ressusciter 5 minutes pour leur coller une mandale et leur demander de dégager. Je n'ai pas prévenu Philippe non plus. Pourquoi faire? J'ai décidé de garder le garage, mais je l'ai mis en gérance. Je suis partie plusieurs mois. Loin de Bron, j'avais besoin de réfléchir, de faire mon deuil, comme on dit. M'éloigner ne m'a pas aidée, au contraire. J'ai frôlé la mort à mon tour,
J'ai fait une dépression. Je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique, sous médoc. Je ne savais même plus compter jusqu'à 10. La mort de Luc a failli me coûter la vie à moi aussi. En perdant mon homme, j'ai perdu tous mes repères. Je l'avais rencontré si jeune. Quand j'ai commencé à refaire surface, j'ai décidé de reprendre les affaires en main. Ce garage, c'était toute notre vie et surtout la mienne. J'ai vendu notre maison à la campagne pour en acheter une en ville, à 5 minutes du garage. Le jour de la vente, quand j'ai donné les clés au nouveau propriétaire, un merle était posé sur le mur de Philippe. Il chantait à tue-tête. En 1998, j'étais en train de faire un devis pour le véhicule d'un client quand je l'ai vu entrer dans le garage. J'étais dans mon bureau, je l'ai vu arriver en moto à travers la baie vitrée. Il n'avait pas encore enlevé son casque, que je savais déjà que c'était lui. 15 ans que je ne l'avais pas vu. Son corps avait changé, mais l'allure était toujours là. J'ai cru que j'allais crever. Comme mon homme, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je ne pensais pas le revoir un jour. Je pensais rarement à lui. Il faisait partie de mes nuits. J'en rêvais souvent, mais la journée, je pensais rarement à lui. Il appartenait à mes souvenirs. Il a enlevé son casque et il s'est mis à appartenir au présent. Sale tête, mauvaise mine. Un choc. J'avais laissé un gosse de 25 ans sur un quai de gare et je découvrais un homme sombre. Je l'ai trouvé extrêmement beau. Cerné, mais beau. J'ai eu envie de courir dans ses bras, comme dans les films de Lelouch. Je me suis souvenue de ses derniers mots. « Viens, on part ensemble. Je sens qu'avec toi, tout est possible. Avec toi, j'ai tous les courages. Sinon, je vais devenir un pauvre type, un bon à rien. » Je me suis avancée vers lui. Et moi? Moi aussi, j'avais changé. J'allais avoir 47 ans. J'étais décharnée. Ma peau accusait le coup. J'avais trop bu et trop fumé. Je crois qu'il n'en a rien eu à foutre. Quand il m'a vu, il s'est jeté dans mes bras. Tombé dans mes bras serait plus juste. Il s'est mis à sangloter. Longtemps. Au milieu du garage. Je l'ai ramené chez moi. Chez nous. Et il m'a tout raconté. Françoise Pelletier est repartie depuis 1 heure. Sa voix résonne entre mes murs. J'ai cru qu'elle était venue jusqu'à moi pour me blesser, alors qu'elle m'a fait cadeau de la vérité.